Alors ce soir, je réponds à une question qui a été formulée de pas mal de personnes en fait qui sont ici dans cette salle. Et donc généralement, c'est judicieux de répondre à des questions qui proviennent de votre méditation, de votre vécu, de ce qui est éprouvé. Et cette question a trait aux émotions. Donc je vais parler de Sati en lien avec les émotions, cette dimension de notre existence qui est extrêmement riche, extrêmement importante. Et dans le contexte de Vipassana, eh bien, il est possible de les intégrer plutôt que de les mettre à distance. Donc, on porte notre attention sur les émotions. Maintenant, la façon dont on les reçoit, c'est à nouveau la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire éprouver une émotion comme telle. Éprouver des émotions simples, élémentaires, tristesse, colère, irritation, frustration, voilà. Et c'est pas si simple d'être avec justement cette dimension d'émotion élémentaire et d'avoir une attitude qui va nous aider. Donc je crois que c'est très important de pouvoir avoir quelques éléments quant à notre posture, la manière dont on se positionne, et c'est évident que ceci peut nous aider. On comprend dans ce contexte qu'aucune émotion n'est inadéquate. Donc on a des fois une vision des choses, une vision, la méditation, la sérénité, la paix, il n'y a qu'à voir toutes les images des Bouddhas, toutes ces références où ils sont vraiment complètement souriants, joyeux, voilà. Et puis on se dit, bah, c'est très intéressant, mais voilà, moi je ne me sens pas comme ça. Hein. Voilà. Donc... C'est très rapide en fait qu'on a cette espèce de représentation d'une image de perfection, d'une image de sérénité absolue. Et on peut à ce moment-là faire l'adéquation, eh bien, les émotions ne font pas partie de notre cheminement. Voilà. Et ce n'est absolument pas le cas. Donc c'est vraiment important déjà d'entendre ceci et d'essayer de les laisser exister. Laisser les émotions exister en nous. Alors maintenant, s'il n'y en a pas, on va pas aller les chercher. Hein. Voilà. Donc on peut se dire ce soir, tiens, mais moi, alors, je ne suis pas une personne qui a éprouvé d'émotions jusqu'à présent. Ça fait 5 jours que je suis là, ou même plus. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes pour lesquelles bah, c'est un processus, quelque part, d'approfondissement, dans le sens qu'elles sont tellement enfouies, tellement, quelque part, refoulées, qu'on les ressent pas forcément immédiatement. Donc, nous n'allons pas creuser pour les faire venir, pour quelque part les présenter, mais il y a naturellement un moment donné, si ce n'est pas dans cette retraite, un moment donné, j'imagine que cet aspect de notre existence va se manifester. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Donc, je m'adresse quand même à une certaine partie de la salle. Donc, on essaye de les laisser exister. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie les recevoir comme elles se présentent, comme la respiration, comme les sensations corporelles, sans les complications ajoutées. Vous voyez? Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait généralement pas. Ce qui veut dire que nous avons une posture, une manière d'être en lien, en relation, qui fait qu'on a des complications supplémentaires. Causées par quoi? Bah, très souvent, par l'évaluation, justement. Elle ne devrait pas être là, ça ne devrait pas être comme ceci, je devrais être en paix, je devrais être tranquille, ça devrait être calme. Par le jugement, quand il se présente, voilà. Je ne fais pas bien, je suis incapable de méditer. Donc, on a un auto-jugement qui va naturellement faire qu'on complique la relation. Donc, toutes sortes de manifestations qui font qu'à ce moment-là, il y a naturellement la prise en compte de comment ça résiste. Et prendre en compte les résistances est quelque chose de tout à fait honorable. De la même manière qu'on peut prendre conscience des résistances lorsqu'il y a une simple douleur physique. Voilà. Donc, c'est un petit peu la même attitude. En méditation, c'est un petit peu toujours la même attitude. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre cette attitude et qu'elle puisse s'appliquer dans divers registres et qu'elle puisse quelque part colorer notre façon de nous mettre en situation. Car il s'agit bien d'être toujours en situation. Ce n'est pas la situation rêvée, ce n'est pas ce que j'aimerais, ce que je voudrais. Ben non, il y a des fois, ben, c'est comme ça. Et c'est ça. Vraiment, cette dimension d'accepter la réalité est quelque chose qu'on a beaucoup de peine à faire. Voilà, et dans ce contexte-ci, ben, c'est la réalité qui nous intéresse. Ce n'est pas une autre réalité, un autre type de... Ce n'est pas abstrait, c'est vraiment très concret. Donc, comment est-ce qu'on peut se référer aux émotions sans, quelque part, les complications? Ben, y a un sutra que beaucoup d'entre vous avez entendu maintes et maintes fois. Je ne peux m'empêcher de m'y référer parce qu'il est tellement parlant dans ce contexte. Et vraiment, j'imagine que vous savez déjà, ceux ou celles qui avaient pratiqué avec nous, de quel sutra il s'agit. Et pour certaines personnes, c'est nouveau. Donc voilà, je me réfère à vous. Et même si vous l'avez entendu, c'est toujours génial de pouvoir réentendre quelque part un enseignement du Bouddha lui-même. Dixit du Bouddha. Voilà, du temps du Bouddha, on va dire ça. Donc, le Bouddha demande à un étudiant si une personne est transpercée par une flèche, est-ce douloureux? Bien sûr que la personne répond oui, c'est douloureux. Et donc, le Bouddha, il a une référence extrêmement claire en disant si cette personne est transpercée par une deuxième flèche, est-ce que c'est encore plus douloureux? Bien sûr, c'est encore plus douloureux. Fait deux flèches au lieu d'une. On peut rajouter des flèches, hein, là. 10 flèches, 15 flèches, 20 flèches. Et donc, il y a un enseignement à tirer ici, qui est le fait que cette première flèche, c'est la douleur. La douleur. On ressent tous, tout un chacun, en tant qu'être humain, par moment, des douleurs. Des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles, voilà. Donc, ceci fait partie de notre vie, de notre existence. La deuxième flèche dans cet enseignement représente notre réaction à la première. D'accord ? C'est la manière dont on réagit par rapport à la première. Cette deuxième flèche, ce qu'on appelle la souffrance, et non pas la douleur, la souffrance est facultative. Donc, c'est la manière dont on est relié qui est ici tellement importante. Donc, tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes dans cette existence, qu'on a des sens, qu'on va ressentir les choses, eh bien, on va devoir s'attendre à ce qu'on appelle dukkha. Dukkha, c'est quelque part l'insatisfaction. Voilà, c'est quelque part ce qu'on appelle la douleur. Qui provient de notre existence par moment. Cette deuxième flèche, qu'est-ce que c'est? Cette deuxième flèche, c'est cet aspect qui fait qu'on est dans un registre de non-acceptation. C'est vraiment ça. C'est la résistance. La résistance pure et dure qui fait que quand ceci se passe, eh bien, on condamne. On est dans un jugement, on critique, on hait, ou on nie la douleur. On est dans un déni, dans le sens que c'est tout à fait possible d'être tellement à distance qu'on n'a pas, quelque part, ressenti ce qui se passe. On est, on se laisse pas toucher, si vous voulez, par ce qui peut être douloureux. Donc, on comprend bien dans cet enseignement qu'on ne peut pas contrôler la première fois. On essaye, hein. On essaye par plein de moyens, plein de manières, on essaye de contrôler notre vie, de faire pour que tout soit parfait, que tout soit quelque part ad hoc. Mais on voit bien que par moment, c'est impossible de contrôler tous nos actes, toutes nos relations, la relation à nous-mêmes, la relation aux autres, que des fois, ça ne va pas exactement dans le sens qu'on aimerait. Ça fait partie de l'existence. Et c'est extraordinaire combien cet enseignement est parlant aujourd'hui dans le monde, collectivement, pas uniquement pour vous individuellement, mais combien ceci est présent dans la vie d'aujourd'hui. Autant que ça l'a été, j'imagine, au temps du Bouddha, puisqu'il prend ces exemples qui sont extrêmement parlants. Donc, on ne peut pas contrôler cette première flèche, mais on peut prendre conscience de la manière dont on réagit pour ne pas nourrir les réactions, ne pas les alimenter, ne pas ajouter de la souffrance à la douleur. Et ça, c'est un espace vraiment de compréhension tellement profond, mais tellement profond, qu'on a à ce moment-là cette capacité de pouvoir dire qu'il y a une autre voie que la soumission, que la victimisation, ce qu'on appelle être une victime des circonstances. Voilà. J'y peux rien, je ne peux rien faire. Voilà, je sens une certaine incapacité à pouvoir répondre à la situation, donc je suis démunie. Donc, en lien avec notre propre condition intérieure, eh bien, il est possible de pouvoir, quelque part, non pas rester dans ce figement, cette contraction de soumission, de victimisation, mais au contraire, de pouvoir aller dans un sens de libération. Et quand on a pratiqué, comme je sais que beaucoup d'entre vous avaient déjà bien pratiqué, eh bien, il y a cette incroyable réalisation, et ça c'est une réalisation que moi j'ai eue il y a bien longtemps, quand on s'adonne à la pratique, il y a des moments où tout à coup, waouh, il y a une prise de conscience, c'est ça une réalisation, une prise de conscience, de se rendre compte qu'en fait, que la souffrance qui est importante et qu'on associe à une émotion, elle n'est en réalité pas due à l'émotion elle-même, mais justement, à la résistance, que c'est la résistance qui fait mal, que c'est ne le pas vouloir, c'est quand on se dit c'est inacceptable, je veux pas, qu'on la hait, qu'on en a honte, qu'on blâme, qu'on se tend, qu'on est crispé physiquement, ça c'est vraiment un aspect qu'il est tellement important de pouvoir considérer. Parce que c'est ça qui crée vraiment un figement, une contraction, et non pas, quelque part, l'émotion elle-même. Bien sûr que l'émotion est douloureuse, elle fait mal, mais quand il y a quelque part une saisie, c'est ce qu'on appelle la saisie, la crispation, la contraction, eh bien, c'est souvent ceci qui est cette souffrance associée qui permet de se rendre compte qu'on se fige soi-même. Je me tends, je me blâme, je me juge, je me critique. Donc, si on a, comme j'ai pu le dire l'autre soir, sati, et en plus, Panya, quelle merveille! Parce qu'on a à ce moment-là la présence d'une qualité de conscience qui contient du discernement, de la clarté, et qui éclaire ce qui se passe, qui n'est pas pris dans le piège de la résistance. Donc, Satipanya, toujours à nourrir. Et quand cette dimension-là est présente, eh bien, il n'y a plus de condamnation. La condamnation tombe. On ne condamne pas les réactions et on ne condamne pas non plus le fait d'éprouver la vie par moments de façon à pouvoir ressentir de la douleur. On comprend vraiment profondément que, ben oui, ça fait partie de l'existence. Plutôt que d'être dans une espèce de confusion, rêverie, abstraction, qui fait qu'on cherche constamment le confort, ce qui est plaisant, ce qu'on aime. Et là, il y a un réveil, il y a vraiment un réveil qui permet d'y voir beaucoup plus clair. Bien sûr qu'il y a des moments absolument délicieux et il y a des moments qui ne sont pas tant délicieux et qui sont forcément un petit peu douloureux. Donc il y a une honnêteté dans notre façon de pouvoir quelque part repérer les deux. Combien ça peut être plaisant, combien ça peut être déplaisant, et que lorsqu'il y a effectivement du désagréable, eh bien on a cette capacité quelque part tranquillement de pouvoir considérer comment est-ce que quelque part je contribue à me maintenir dans un figement, dans un espace de soumission, un espace de victimisation. Donc c'est extraordinaire parce qu'on a beaucoup quelque part de possibilités là, s'il y a du discernement. Donc plus nous devenons familiers avec notre activité, si vous voulez, notre résistance, notre activité, plus il est facile de simplement ressentir une tristesse comme étant une tristesse, une irritation comme étant une irritation, un jugement comme étant un jugement. Et j'en passe. Voilà, pour tout la même chose. Voilà. Donc sans l'ajout de la culpabilité, le remords, je ne devrais pas, ça n'aurait pas été bien, voilà tout ça qu'on rajoute. Comment on rajoute ça? Par les pensées. C'est les pensées qui font ça. C'est le récit qui fait que oh, j'aurais pas dû, je ne devrais pas, et quelle horreur, nanana, qu'est-ce que ça dit de moi? Et puis en plus la référence du moi, du je, est extrêmement présente dans ces moments-là. Donc il y a une familiarité là qui fait que waouh, ça devient plus simple, on cultive la simplicité. Donc cette liberté dans la pratique de la méditation vipassana, elle n'est pas le fait d'être délivré des émotions. Je peux vous dire franchement que les émotions, elles seront toujours là. C'est simplement d'être délivré de la résistance, de la saisie en lien avec ces émotions. Et ça, c'est très différent. Ça, c'est vraiment une compréhension déjà beaucoup plus profonde. On ne devrait plus avoir d'émotions, mais non. Il y a, elles sont riches, elles sont importantes, il y en a des plaisantes, la joie, la satisfaction, l'excitation, l'enthousiasme. Et puis des fois, ben voilà, oui, la tristesse, oui, l'irritation, oui, la frustration. Ce n'est pas de ne pas avoir d'émotions. Mais la saisie, le fait justement de résister, de repousser, de refuser notre habitude, l'habitude de compliquer, l'habitude de... Donc, mon point ici, c'est qu'aucune émotion n'est inadéquate à ressentir dans ce contexte de processus de vie, de cheminement. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, hein, de pouvoir quelque part percevoir qu'il y a un espace en ce qui est ressenti, et que Sati peut simplement refléter ce qui est là sans se sentir submergé. Donc les habitudes qu'on a, hein, il y a deux manières, deux schémas d'habitude que généralement on peut repérer, mais d'une façon tellement claire. C'est l'habitude d'être complètement noyé dedans, hein, voilà. Complètement submergée, c'est comme waouh, cette vague, voilà. Et puis du coup, ben, je suis piégée parce que il n'y a pas la présence, il n'y a pas la qualité de contact qui fait que on est, et c'est normal. Donc il y a par moments, effectivement, le fait d'être complètement pris dedans, et ça arrive, voilà. Donc on a beaucoup de peine à l'identifier. On est pris dans quoi? Dans la résistance, dans je veux pas la ressentir, je veux que ce soit autrement. Je suis incapable de pouvoir rester en présence de ça. Donc, c'est évident que ça, c'est quelque part ce qu'on va vivre avant qu'on puisse quelque part vivre ce que j'ai expliqué précédemment. Et puis l'autre schéma d'habitude, c'est le refoulement. C'est quelque part vraiment d'être tellement à distance parce que voilà, on ne se laisse pas quelque part toucher par ce type de manifestation, d'expression. Donc c'est le refoulement ou quelque part la déconnexion. D'être tellement à distance de soi que ben ah ouais, non, ouais. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui prend du temps pour quelque part dire ah ben tiens, j'aimerais tellement les avoir, ces émotions. Et c'est incroyable parce qu'il y a tellement de gens qui disent oh mais moi j'aimerais bien les ressentir. Eh ben c'est un boulot déjà hein, de pouvoir quelque part dire waouh, et on est bien content quand elles commencent à pointer leur bout du nez. Parce que pourquoi? Parce que quelque part, on sent qu'il y a du vivant là-dedans. Plutôt que d'être dans un figement qui fait qu'on est soit dans le refoulement et à distance, c'est-à-dire déconnecté. Donc, c'est intéressant parce que autant les sensations physiques, elles sont claires, d'accord? Il y a une pression, il y a un picotement. Il y a voilà, plein de pressions. Voilà, il y a plein de choses qui font que, ah ben oui, il y a une sensation physique, puis voilà, c'est douloureux, brûlure. Voilà. L'émotion, wow, c'est quelque part beaucoup, beaucoup plus complexe. D'ailleurs, on se dit, mais en fait, elle se situe où? Est-ce qu'elle se situe dans le corps? Ou est-ce qu'elle se situe finalement dans le mental? Est-ce que ça appartient aux facteurs mentaux? Est-ce que c'est quelque part quelque chose que... Mais non, mais je les ressens dans le corps. C'est quand j'ai, par exemple, un petit peu d'oppression dans la poitrine, puis je sais très, très bien que c'est pas un coup de froid, et puis c'est pas que j'ai... Voilà, bah oui, c'est... Hein, il y a là un peu d'oppression, ça fait... Ouais. Puis un peu de tristesse, puis voilà, ça, il y a un poids dans la poitrine, on se dit, bah, ah non, mais l'émotion, en fait, elle est dans mon espace physique. Donc, où est-ce qu'on va les situer, ces émotions? C'est très intéressant de se poser la question déjà. D'après un certain vécu, bah, c'est absolument magnifique de voir que ce n'est pas si clair. Ce n'est pas si clair parce que les émotions, on dit que ce sont des constellations. D'accord ? Des constellations. Donc une constellation, c'est forcément fait de plusieurs choses, hein, de plusieurs dimensions, plusieurs aspects. Voilà, donc c'est naturellement effectivement des états mentaux, tristesse, peur et autres, ce sont des états mentaux. Mais au niveau de l'expérience, nous allons bien sûr aussi avoir par moment l'impact de ces émotions dans l'espace physique. Comme on dit, on bouillonne de colère, hein? Si on bouillonne de colère, bah, voilà, on sent bien que ça monte et puis voilà, ça brûle. Donc, il y a des sensations physiques, il y a vraiment une émotion. Mais ce n'est pas la sensation physique elle-même, c'est teinté d'une émotion. Donc, on a très, très clairement là cette possibilité, quelque part, de repérer le physique en tant que ressenti, sensation, et la dimension émotionnelle. Donc c'est pas aussi franc effectivement qu'un picotement dans une jambe ou une douleur lancinante dans le dos. C'est plus complexe. Alors comment on fait? Ben, où est-ce qu'on va les chercher? Ben, là où elles sont. Voilà, c'est très simple, hein, de nouveau, cultiver la simplicité. Voilà. Si pour certaines personnes qui sont très reliées au corps, ben, c'est évident que là, l'émotion va dire ah ben oui, c'est corporel, pour moi c'est corporel. Absolument pas dans le mental. Pour d'autres, c'est ah ben non, l'émotion en fait, c'est parce que quand j'ai une pensée triste, voilà, de tristesse, si je pense quelque part j'ai un récit, puis que je pense à une situation, ben, me vient la tristesse. Voilà, me vient quelque part le ressentiment, par exemple. Donc il y a là quelque part un contenu d'un récit, d'une pensée qui a quelque part en dessous un élément émotionnel. et que ce n'est pas juste une pensée anodine, une pensée qui est de la rumination. Donc on va avoir ces différents modes. Et peut-être que le fait d'avoir, ah oui, ben voilà, ici c'est en fait un train de pensée qui contient un petit peu de nostalgie, mélancolie, tristesse. Et puis tout à coup, l'impact, on sent, oulala, mais là, c'est un peu de lourdeur dans la poitrine. Mais il y a un lien là, un lien entre corps et esprit. Il y a toujours du lien, parce que c'est interdépendant, c'est complètement en interconnexion. Ce qui s'apparente dans le corps va bien sûr influencer l'esprit, l'esprit ou la conscience est influencée par ce qui se passe dans le corps. Donc il y a des relations là. Et c'est un processus, le temps de la rencontre. C'est absolument extraordinaire par moment de se sentir que, oulala, oh, elle pointe son bout du nez, et puis on a envie d'aller à la rencontre, oup, elle disparaît. Ça vous est déjà arrivé ça? Hein? C'est incroyable. Ah non, mais je voulais vraiment l'explorer, cette émotion. Et puis, quelque part, elle est là, mais, oup, elle a disparu. Donc, il y a vraiment tout un sujet ici pour avoir des ressources qui fait que on cultive la patience, on cultive quelque part l'ouverture, l'accueil, que ceci va naturellement prendre un certain temps. Il y a différentes saveurs, différents goûts, et que ça va disparaître et que ça va revenir suivant les circonstances, suivant notre énergie, suivant notre capacité de pouvoir accueillir. S'il y a beaucoup de résistance, c'est évident que, eh bien, elles prennent le chemin quelque part de la cachette. C'est un petit peu comme ces lézards là. On adore les regarder, non? Ils sont là, voilà. C'est vraiment ça. Moi, je trouve que les émotions, c'est comme les lézards. Ils nous sentent et puis, whoop, ils glissent, ils s'en vont, ils se taillent. Donc, on peut être en paix quand ces émotions sont là. Des fois, on n'est pas du tout en paix. Et en tout cas, on comprend qu'il ne s'agit pas de les chasser. Voilà. Donc, il y a tout un apport qui permet de, quelque part, considérer ceci déjà comme faisant partie du cheminement. Et qu'on n'est pas invalidé en leur présence, qu'on n'a pas à être paralysé. Et très souvent, le conditionnement, eh bien, nous met dans un rapport, une relation qui fait qu'on a déjà la croyance que ce n'est pas juste d'en avoir. Très souvent, on peut avoir un conditionnement social même, un environnement dans lequel on a grandi, qui ne permet pas de pouvoir explorer ceci de façon judicieuse. Donc oui, on a appris à refouler, on a appris à ne pas les ressentir, on a appris à, quelque part, prendre le dessus, voilà, surmonter. Voilà, de battant. Et donc ici, ben, c'est un autre type de rapport qui va vraiment pouvoir aussi être extrêmement respectueux du cheminement, qui a de la résistance. Mais c'est vrai que c'est appris. Je dis toujours, moi, je veux dire, j'avais quelque part un tel manque d'attention que pour quelque part qu'on me, qu'on me voit en tant qu'enfant, eh ben, j'étais souvent colérique. Mais c'était simplement un appel, hein, on peut le comprendre aujourd'hui, en tant qu'adulte, voilà. Et puis, c'était pas du tout bienvenu, quoi, c'était voilà, la punition et donc... très vite compris que ce n'était pas admissible et que ça apportait quelque part à un état encore plus isolant. Vous voyez combien c'est incroyable, ces manifestations qui sont là et qui viennent de loin. Pour beaucoup d'entre nous, ça vient de très loin. Donc on a des schémas, on a des comportements qui font qu'on a appris certaines manières de refouler ou alors d'expulser, évacuer et puis utiliser les autres, voilà. Les autres deviennent quelque part notre échappatoire et donc on expulse, on évacue, on utilise les autres, ce qui n'est pas du tout judicieux. Donc on a ces différents modes et c'est évident que si ces modes sont là, ben on va aussi comme ça repérer petit à petit, progressivement, pas sentir seulement les émotions dites primaires, c'est-à-dire ah, la tristesse c'est comme si, ah, c'est comme ça, aussi tout ce qu'on a appris et les croyances qui sont venues avec. C'est-à-dire tout ce qu'on a comme récits qui font croire que c'est pas juste de ressentir ça, qu'on devrait pouvoir quelque part être en mesure prendre le dessus. Et donc ça aussi, nous allons avoir par moment cette extraordinaire possibilité, c'est un potentiel, de nous ouvrir et de recevoir ce qui se dit. Ce qui se dit, le récit qui a trait à un comportement où il y a des émotions. Ce sont des croyances et pas des vérités. Donc, tout ceci va nous aider à pouvoir avoir une certaine confiance. Confiance dans le fait de pouvoir accueillir, accepter, s'ouvrir, ressentir. Mais c'est fou, c'est vraiment progressif, hein, tranquillement. Et avec beaucoup, voilà justement, comme j'en ai parlé l'autre soir, cette fonction de Sati qui a aussi cet aspect de protéger. Protéger, donc avec bienveillance. Protéger quand c'est juste, quand c'est ok, quand ça devient quelque chose de forcé, c'est pas du tout judicieux, c'est que on est mal positionné. Il y a peut-être trop d'énergie, on veut trop y arriver, on veut trop s'en sortir ou comprendre ou voilà. Et là, il s'agit vraiment de, au contraire, en appeler à la détente, le discernement, accueillir. Appeler la tendresse, appeler la douceur, qui est aussi absolument importante et valorisante, parce que ça nous permet de recevoir la dimension douloureuse. Donc il y a beaucoup, beaucoup de sentiments qui peuvent nous accompagner et qui peuvent nous aider en tant que qualité. Une douce persévérance, une douce persévérance. Une patience. On a le temps de l'accueil. On a le temps de franchir le pas, faire un pas en avant, 10 en arrière. Un en avant, 15 en arrière. Mais vraiment? C'est incroyable, c'est exactement là, c'est pas « Ah non, mais je suis bloquée là, je peux plus avancer, ouais, je fais qu'un pas, et puis... Non, mais moi j'aimerais aller 15 pas en avant, pas 10 en arrière. » Et puis c'est exactement là que se situe quelque part cette extraordinaire délicatesse du travail d'orfèvre, où c'est « Ah ouais, c'est exactement ici même que se situe ma limite, ma limite, ma limite. » Ce qu'on va rencontrer souvent, là, c'est la peur. La peur, il y a un sentiment d'insécurité. Donc, c'est génial de pouvoir quelque part dire « Ouh là là, mais la peur !» Et puis, comme dit Pema Chodron, des sentiments comme l'embarras, l'irritation, la colère, la peur, au lieu d'être des mauvaises nouvelles, sont en réalité des moments de clarté qui nous enseigne. Donc, il y a beaucoup de respect dans ce processus. Il est riche, il est gratifiant, même si par moment, eh bien, on est un peu impatient, impatiente. Donc la peur. La peur, c'est tellement fascinant, moi je trouve que j'ai tellement de compréhension, certainement que ma propre pratique, si je partage un petit peu de ma propre pratique, elle s'est vraiment faite au contact d'un cheminement et la peur en sourdine, la peur comme ouf, un immense... animal qui viendrait là me... Voilà, jouer. Vraiment, c'est absolument extraordinaire de voir combien ça a été présent. Pour d'autres personnes, ça va être la colère, parce que c'est dans leur nature, quelque part. C'est dans la nature de cette personne d'être beaucoup plus, quelque part, dans une situation de vouloir être en rébellion et prendre le dessus. Et puis voilà, c'est avec la colère, on justifie. On est dans son bon droit, donc on a le droit d'être en colère. Et puis tout le monde d'autre a tort, et puis il y a moi qui ai raison. Donc voilà, je me bats. Je suis un battant ou une battante. Vous voyez, donc c'est très intéressant là, cette espèce de force qui est une force, une pulsion aussi, de vie aussi, hein, voilà, moteur, mais qui tourne en colère, qui tourne. Le moteur, il est tout à fait judicieux. La vie, il n'y a pas de vie sans cette énergie vive. Mais quand ça devient quelque part de la colère qui surtout est propulsée à l'extérieur, comme on peut voir aujourd'hui, ben, c'est pas du tout profitable. Déjà, on est le premier à en souffrir. On croit que voilà, c'est contre l'autre et puis je vais me venger. Mais quelque part, on ressent soi-même, avant de se venger, l'effet d'être en colère. Donc c'est incroyable, cette manifestation. Elle est douloureuse aussi. L'énergie de la colère, elle est absolument extraordinaire parce qu'on a ce bouillonnement, et puis c'est vrai qu'on va peut-être agir plus rapidement, dans le sens de pouvoir quelque part y voir clair et vouloir s'en libérer parce qu'elle est bouillonnante. C'est comme un charbon ardent, hein, et d'ailleurs le Bouddha explique ceci, on tient ceci dans la main pour le jeter sur quelqu'un d'autre, puis en attendant c'est nous qui le tenons dans la main. Hein. Donc voilà, c'est assez douloureux pour soi-même, quoi. Donc voilà, on lâche. Et la peur, c'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus fragile. C'est waouh, c'est impressionnant. C'est pas évident de la fréquenter. C'est moins clair, en fait. Alors, on peut avoir peur déjà. Hein. C'est vraiment incroyable parce qu'il y a plein de peurs. Il y a la peur de la mort, bien sûr. Il y a la peur de perdre un petit peu ses repères. Même ici, il y a des personnes qui ont partagé. Voilà, c'est un peu nouveau. Hein. Puis tout à coup, on se dit waouh, mais je suis beaucoup plus en fait en contact avec mes sensations corporelles. Et puis, bah, y a la peur de perdre quelque part la représentation de mon corps. J'ai plus du tout l'image de mon corps parce que je suis tout simplement en contact des sensations. Et puis, il y a des changements de perception. Il y a des personnes qui ont décrit ça. Ça fait peur. Et je suis où là? Je suis plus là. Ouh là là. Non, si j'ouvre les yeux, je suis là encore là, oui, en fait. Mais ce changement de perception, c'est simplement qu'on ne se représente plus notre être sous la forme d'une image. On a toujours cette image de nous-mêmes, hein, quelque part. L'image qui, voilà, ça, je me représente dans l'espace. Hein, et puis, cette image, elle peut, par moment, tomber à cause du pouvoir du contact. Donc, on commence à ressentir ces sensations dans le corps, puis on se rend compte que, quelque part, c'est pas le vide absolu. Oh là là, mais c'est tout vide, on dit, mais c'est vide. Ah, il y a le néant et tout. Non. C'est simplement la dissolution de la représentation qu'on a de l'image du corps. J'imagine que Charles en a parlé hier. Donc cette dissolution, c'est simplement la représentation du corps. Et puis, très tranquillement, il va y avoir un ajustement. Et on s'habitue à cette nouvelle réalité. De pouvoir sentir un petit peu plus, sentir le corps sans avoir l'image du corps. Et ça fait peur. Ce changement. C'est dingue. Donc là, voilà, déjà rien que là, on peut se dire, oh non, non, mais moi, je ne vais pas aller m'asseoir. Parce que, voilà, je ne sais pas, mais tranquillement, déjà, le fait que vous l'entendiez, ben, c'est quelque part un cheminement, on rencontre quelque part sa limite, vous voyez. Et à chaque fois, on rencontre des limites, quelque part. Qu'est-ce que je suis prête à accepter? Qu'est-ce que je ne suis pas prête à accepter? C'est ça, la limite. Et vraiment d'être franc, d'être honnête. Ah oui, ben c'est ça en fait. Voilà, je suis allée jusqu'à ce point, puis justement à cette limite, oh, il y a la peur. Ok, ben je reste là. Voilà, comme j'ai dit, au bord du précipice, comme l'autre soir, ben, c'est à cet endroit que, en quelque part, on se rend compte. Voilà, l'émotion est là, la peur, c'est de la peur. Peur de la peur, peur de la peur. Comment c'est la peur de la peur? Eh ben, c'est le maintien à distance. Peur de la peur, c'est rester... non. Ok, ben, c'est ok. C'est là pendant un temps. Voilà, le maintien à distance. Puis tranquillement, on se dit, mais en fait, c'est intéressant cette peur. Puis là, le récit qui vient, puis qui dit, je peux pas, j'y arriverai pas. Souvent, c'est ça. On anticipe. Ça va être affreux. Ça va être horrible. Généralement, c'est ça. C'est vraiment incroyable. On imagine, et souvent en anticipation. La peur, c'est très souvent pas du tout en lien avec la réalité, mais en lien avec ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire l'avenir. Voilà. Et on a peur de l'avenir. Donc, on contrôle. On essaye de mettre tout en place pour avoir un sentiment que... Voilà, on va vraiment bien maîtriser, puis notre vie sera parfaite, et puis voilà, on va pouvoir tout mettre en place pour que toujours, jusqu'à ce que... Non, on comprend que quelque part, on a une certaine capacité, mais il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Donc, on commence à voir la peur elle-même, afin de pouvoir, quelque part, comprendre sa nature. Sa nature. Comment c'est la peur? Oh, c'est fuyant. Quand il y a la peur, souvent, il n'y a pas de terre. Hein? On perd le sol. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est flottant et c'est très intéressant. Donc voilà, je retourne à la terre, je m'enracine, point d'ancrage immensément aidant. Voilà pourquoi on a besoin d'un point d'ancrage, qui fait qu'on est en haute mer, là, où c'est beau, là, ça navigue et haute. Et puis, on retrouve notre île. C'est l'île. Point d'ancrage, c'est l'île. Quelque part, on a cette capacité de pouvoir dire « Ok, c'est ok. Là, je connais, c'est familier. Je peux y être. Je me repose. » Et c'est un ressourcement. Et ce lieu du ressourcement est absolument essentiel. Vous voyez, c'est là qu'on va peut-être faire... On croit qu'on fait 10 pas en arrière. Mais non, au contraire. On se ressource pour peut-être mieux... se rencontrer à nouveau dans le même endroit, mais on a des ressources. Et dans cette dimension-là, l'antidote de la peur, c'est la bienveillance, c'est bon, c'est la bonté, c'est métta. Donc là, c'est tout à fait judicieux de pouvoir quelque part s'accompagner en disant « Mais c'est ok que je puisse me souhaiter du bien, c'est ok. » Ça peut être justement une main sur la poitrine, se rassurer. Il y a toute cette dimension-là qui est absolument essentielle, importante à amener, protéger. Mais ça ne veut pas dire protéger pour complètement quitter la situation. Au contraire, s'accompagner. Il y a une citation de Anne Dufour-Mantel qui dit « La douceur est l'un des noms de cette réconciliation avec ce qui a été refoulé. » La douceur est un des noms de cette réconciliation avec ce qui a été refoulé, exilé et ainsi repris avec mansuétude et le courage qu'il faut pour s'avouer qu'en réalité on y était. La douceur est ce qui nous permet d'aller au-devant de cet étranger qui s'adresse à nous en nous. C'est la voix que le poète anime et recueille. Magnifique ce petit livre, si vous ne l'avez pas lu, si vous n'avez pas connaissance de ce livre. Il s'intitule « Puissance de la douceur ». Donc ce dharma qu'on explore est la totalité. Tout est inclus. Rien n'est exclu, la totalité de notre vie. Ça implique vraiment une extraordinaire capacité de pouvoir, quelque part progressivement avec respect, intégrer avec le rythme de l'ouverture, le rythme de la fermeture. Ouverture ne veut pas dire toujours ouvert. Ça veut dire aussi le repli, se recueillir, retrouver quelque part un sens de tranquillité au moyen de l'île. Quelque part là, toute cette dimension de point d'ancrage qui est extrêmement important par moment, surtout quand il y a effectivement l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, voilà, qu'on n'a plus de terre. Donc c'est super important de savoir s'accompagner et d'apprendre à s'accompagner. Pendant longtemps, on déteste ressentir la peur. Donc on s'en éloigne et puis voilà, on se distrait. C'est là qu'on a toutes nos fantaisies, qu'on passe notre temps à refaire le monde, si ce n'est pas nous-mêmes, notre vie. Voilà, à planifier, à être vraiment dans un registre de fantaisie. Et puis voilà, on se distrait pendant un moment. Mais ça aussi, c'est OK. Ça aussi, c'est complètement OK. Ce moment, peut-être ce temps qu'on s'accorde à pouvoir s'éloigner, rêver et autres, ben, c'est peut-être justement aussi un temps, un sas. Des fois, c'est le point d'ancrage, des fois, ça peut être effectivement tout à fait ressourçant. Si, surtout si c'est fait en conscience, et puis on se dit, bah, tiens, oh là là, j'ai pu avoir, tiens, comme la brise fraîche, ah, un temps de ouf, voilà. Et on va peut-être aussi avoir la capacité d'aller voir la beauté de la nature, de se ressourcer au contact de la nature. Donc il y a mille manières de pouvoir quelque part rester au contact et s'accompagner pour aller dans le sens de la simplicité et rester très proche de ce qui se passe. Donc on a différents scénarios, hein. Ce scénario, quelque chose de désastreux va arriver, bah, c'est qu'une croyance. C'est qu'une croyance. Il y a vraiment un mouvement là qui fait que ça nous dit, eh ben voilà, j'ai besoin de fuir là. J'ai besoin de prendre de la distance. Et puis la résistance qui dit non, je ne veux pas ressentir ça. Combien de fois moi j'ai dit non, je ne suis pas prête. Non. Ben, respecter cette résistance quand c'est là. Vous voyez, mais on en a conscience. C'est-à-dire que ça, c'est quelque part un mode qui fait qu'on en prend conscience. Ça n'a rien à voir avec la deuxième flèche qui fait que, voilà, on est complètement à distance et puis qu'on n'en a rien à faire. Puis on se dit, mais bon, cette pratique de vipassana, de toute façon, ça mène à rien. Non, c'est quelque part, il y a vraiment ce respect de la résistance, mais on est complètement impliqué dans le processus. Je ne veux pas ressentir, j'arrive à... Ok, c'est ça l'expérience. J'accueille, j'accepte. C'est provisoire. Et j'intègre à ce moment-là cette dimension de pouvoir entendre cette petite voix qui a peur. Donc il y a un changement dans notre rapport par rapport à l'habitude. Il y a un changement qui s'opère. Le changement, il est surtout dans l'attitude. L'attitude, c'est OK. J'investigue, qu'est-ce qui se passe, le discernement, la protection, apporter la bienveillance. Tout ça, c'est complètement autre chose que simplement rester figé et se lancer des flèches, plus 12 flèches, qui fait qu'on est mal. Donc voilà, tranquillement, c'est possible de découvrir qu'on peut aussi être en paix. Donc changement dans l'attitude, voilà. Et puis la deuxième vraiment chose, c'est que quelque part, on découvre la liberté. Parce que cette liberté fait qu'on est libre de la saisie, de vouloir s'en débarrasser. Et ça, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle ici la non-identification. Donc, c'est un résultat. C'est vraiment un résultat. Mais c'est ça qui se passe. C'est que quelque part, waouh, il n'y a pas la saisie du vouloir et pas vouloir. Voilà, agrippement et aversion. Et donc on comprend que c'est dans la nature de cet être, comme dans la nature de tous les êtres, de sentir par moment de la tristesse, de sentir par moment de la joie, de sentir par moment tout est temporaire, tout est impermanent. Et donc, on comprend ça, mais vraiment, pas juste intellectuellement, mais on le vit. On se dit, waouh, ok, mais elle était là il y a un moment, puis en fait, elle n'est plus là parce que quelque part, ben voilà, j'ai pu l'intégrer. Et donc, sa caractéristique, ben voilà, elle est là, mais c'est dans sa texture, sa saveur, comme la nature du feu, c'est de brûler, comme je vous ai dit l'autre jour, ben oui, chaud, c'est chaud. Froid, c'est froid. Tristesse, c'est tristesse. Elle a une certaine coloration. Et on comprend ça. Notre condition humaine fait qu'on comprend tout ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas personnel. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il n'y a pas un moi. Et ce centre, cet ego qui fait que, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux ? Puis ces émotions, elles sont complètement passagères. Elles disparaissent suivant les conditions. Cause et condition, elles vont apparaître. Cause et condition, elles disparaissent. Donc elles sont toutes, quelque part, impermanentes, impersonnelles. Et ça, c'est génial, parce qu'à ce moment-là, on se laisse traverser. Il y a une capacité de pouvoir, à ce moment-là, vivre un petit peu plus tranquillement, parce qu'on les repère, on les reconnaît, on les a déjà découverts, on les a quelque part ressenti, on a vécu, donc il y a beaucoup moins de résistance. Et on est là pour ça, c'est la pratique qui nous propose ça. C'est la pratique, c'est d'être en situation. Voilà, je vais terminer avec un petit texte de Ajahn Sumedho, qui est un maître de la tradition de la forêt, de la Thaïlande. Lorsque vous êtes en proie à l'exaspération, plutôt que de vous dire « ça y est, je recommence à m'emporter », vous pouvez simplement vous dire « ceci est la colère ». Vous voyez ? Voilà, une petite phrase, hein. « Ceci est la colère ». Il en va de même avec la peur, il dit. Si vous la voyez en termes personnels, comme la peur dont souffre ma mère, ou bien mon père, ou encore la mienne, tout devient alors très compliqué et surtout très confus, il dit. Il devient très difficile d'avoir une compréhension à ce moment-là, perdu dans le récit. Voilà. Ceci est la peur. C'est seulement cela. Voilà. Donc, il y a là, si nous voyons cela, nous sommes en mesure d'éprouver de la bienveillance. Cet état d'émotion passagère. La douleur est la douleur, le froid est le froid, la colère est la colère. Ce n'est pas la mienne. On n'a pas besoin d'être défini par ça. Donc on voit comment on renforce une image que nous avons de nous-mêmes lorsqu'on se fige et qu'on s'approprie ces émotions, comme toute autre expérience d'ailleurs. Voilà. Donc il y a une manière complètement habile de pouvoir discerner les choses simplement comme elles sont. Et avec le temps, il y a effectivement une appréciation grandissante d'être en chemin et de pouvoir ressentir ces émotions. Qu'elles soient autant plaisantes ou qu'elles soient autant déplaisantes, on a une opportunité de pouvoir goûter à la vie dans sa totalité. C'est ça l'enrichissement, vraiment. Et de ne pas être pour certaines et puis contre d'autres, et puis vraiment être constamment dans cet aspect de partial. Donc on amène une telle attention que tous ces processus sont quelque part des actes de libération. Et donc la dernière petite citation vient de Pema Chödrön. La liberté dans ce contexte n'est pas d'être délivré de nos émotions, c'est d'être délivré de notre habitude de les compliquer. C'est vraiment ce que je vous souhaite à tous et toutes. Et nous sommes ici, par chance, nous avons encore l'opportunité de pouvoir explorer